Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
L'after continue jusqu'à 1h du matin, évidemment en direct comme tous les soirs de notre studio de Doha ici au Qatar, après avoir parlé du match Espagne-Allemagne, après avoir fait le point sur les ressentis des uns et des autres sur cette Coupe du Monde. Et je répète une nouvelle fois que l'after est ouvert à tous les avis. On a fait tellement d'émissions depuis 12 ans avec des opposants, des partisans du Qatar. On continuera à le faire, bien sûr. Gaël est avec nous, supporter des Bleus, afterien de longue date. L'équipe de France, on en parle tout de suite avec Kevin Diaz qui est également là toujours. Je vous donne les infos du jour, les gars. Il y a eu un petit match amical, hein, comme la dernière fois. Alors on a joué deux fois 25 minutes, bon, pour faire une petite opposition pour les remplaçants. Conférence de presse aujourd'hui également. Enfin là, le truc tout de même intéressant, c'est de savoir comment Deschamps va gérer le match à venir contre la Tunisie. Parce que tout à l'heure, on en a un peu parlé pendant le match. Effectivement, il y a quelques points particuliers. Par exemple, est-ce que Théo Hernandez, on le sort quand on sait qu'il n'y a pas forcément de doublure automatique pour lui. Coach Courbis disait oui, c'est le premier qu'il faut mettre au repos parce que lui, il faut le mettre en gros bien parce que derrière, il n'y a pas forcément de solution naturelle. Qu'est-ce qu'on fait avec Giroud et Mbappé qui, eux, veulent peut-être faire une petite course au stat même dans un match de coiffeur. Bref, il y a pas mal de questions et c'est pas si évident de se dire que Deschamps peut tranquillement mettre les gars qui jouent pas, les Guendouzi et compagnie, les Saliba et compagnie sur ce match.
Excuse-moi, mais c'est surtout lui qui va décider.
Oui, mais il va quand même se faire quelques nœuds au cerveau.
Je crois pas trop, moi. Je pense que tu fais un bilan physique déjà avec ton staff médical. Tu vois dans quel état sont les mecs. Si Mbappé veut absolument jouer parce qu'il doit mettre son but pour les stats, peut-être il fera un bout de match. Mais très honnêtement, je pense que Mbappé, certes, il est braqué sur ses perfs personnels, mais on est quand même dans une Coupe du Monde. Et si Deschamps lui dit tu vas te reposer là, il se reposera. Là, franchement, là, pas que vous créez des débats pour rien, mais il y a un entraîneur qui connaît la musique par cœur et qui va prendre les décisions en fonction du temps de récup. C'est un match qui ne compte pas pour les Bleus. Moi, très franchement, il y a un paquet de joueurs que je ferais souffler dans cette équipe. Peut-être que Varane a besoin d'enchaîner, de compète. Enfin, très honnêtement, c'est presque une discussion entraîneur, staff médical, état de forme des uns des autres, rythme de compète. C'est ça qui doit prévaloir, vraiment.
Tu crois que si le staff médical dit il faut reposer Mbappé, que Mbappé va avoir Deschamps en lui disant je veux jouer, tu crois qu'il se passe quoi?
Je pense que sur une Coupe du Monde, Mbappé le fera pas et Mbappé se reposera et écoutera le staff médical et Deschamps.
Malheureusement, Kevin, t'es d'accord?
Malheureusement, je suis d'accord avec Daniel sur ce qu'il dit, mais je suis pas sûr du tout que Kylian Mbappé ne va pas jouer ce match face à la Tunisie, malheureusement, parce que moi je pense en effet qu'il est vraiment sur le fait, moi je suis jeune, je veux jouer, ça va aller, etc. Et bien sûr, il y a le risque d'un contact, d'un mauvais contact, on l'a vu avec Neymar, etc. C'est un risque que je n'ai pas envie de prendre pour l'équipe de France, mais moi je ne suis que spectateur et consultant. Malheureusement, je suis pas au sein du staff, mais en tout cas, je conseillerais fortement à Didier Deschamps de ne pas écouter Mbappé si c'est ce qu'il lui demande et de ne pas le faire jouer, de ne pas faire jouer, bien sûr. Absolument pas Théo Hernandez, même pas une seconde dans ce match. Donc voilà, après il n'y a pas vraiment de solution derrière, mais tant pis, c'est Deschamps qui l'a voulu. Il n'a pas voulu prendre 26 joueurs, il n'a pas voulu prendre d'autres latérales. Il a qu'à faire avec ce qu'il a, mais en tout cas moi je ferai jouer absolument aucun joueur pour ne prendre aucun risque pour les huitièmes de finale.
Absolument.
Gaël, tu dis quoi toi?
Moi je pense que Mbappé il va vouloir jouer, mais si Deschamps lui dit de se reposer, il va pas partir et lui demander. Parce qu'il va, pour le bien du groupe, il va vouloir faire tourner, si c'est ce que veut Deschamps. Mais je pense qu'au fond, lui, il va vouloir jouer pour ses stades, pour ses buts.
Mais la question, ce n'est pas de savoir si Mbappé veut jouer. La question est de savoir si Mbappé va, entre guillemets, forcer Deschamps à le faire jouer. Pas forcer en disant non, tu me fais jouer. C'est-à-dire que Deschamps ne va pas vouloir se brouiller ou ne va pas vouloir créer la moindre tension et peut mettre Mbappé parce qu'il sait qu'il veut jouer. C'est ça que je veux dire.
Après, il peut y avoir
peu importe, même une
un
minute.
Entre deux. Voilà. On lui dit, écoute, tu fais une mi-temps.
Même une minute, je le fais pas jouer. C'est le joueur offensivement le plus important. Même une minute, il joue pas en fait. Ça va servir à rien, à part le risquer de le blesser ou lui permettre d'avoir une ligne de plus à sa ligne de stats pour la Coupe du Monde.
Alors, je vois pas l'intérêt. En 98 ou en 2018, c'était le même cas. Hein, Les joueurs avaient eu quand même 20 minutes, 20-25 minutes, histoire de dire le fameux on garde le rythme.
Oui, mais ça, que Mbappé joue 20 minutes, pourquoi pas. Oui, très bien.
Voilà, bon, sur l'équipe de France aujourd'hui, je vous avoue que là, bon, c'est, un peu, là c'est un peu l'euphorie. Et c'est un peu paradoxal parce que quand tout va bien, bon, il y a moins de débats, Gaël, tu peux le constater.
Là, il y a moins de débats. Le gros débat qu'on avait entre supporters, c'est est-ce qu'ils vont ouvrir l'entraînement au public sur place.
Ça, c'était un débat.
On a croisé un membre alors... du staff, il nous a dit je pense pas. Ah, aujourd'hui, bon, avant le match de la Croatie, il venait prendre des notes. Mais on aimerait bien, nous, quand même, sur place, aller voir un entraînement une demi-heure.
Ça, pour l'instant, ça n'a pas été le cas depuis le début ?
Non. Juste, il y a l'école française, le lycée français de Doha qui a été invité, donc des jeunes.
Donc les supporters français, alors déjà, la Fédé ne fait pas grand-chose pour les supporters ici.
Les drapeaux.
Ah, ils vous ont donné des drapeaux ?
Les drapeaux derrière les buts.
Ah, c'est déjà pas mal.
C'est un gros boulot.
Mais c'est vrai que les supporters qui sont déplacés ici, il pourrait y avoir quand même un moment privilégié de, au moins de pouvoir voir un entraînement.
Un entraînement ouvert au public, même une demi-heure, rencontre avec les joueurs. Parce qu'on est quand même pas mal. Là. Surtout sur le deuxième match, il y avait 2-3 fois plus de supporters français. Ça serait bien d'aller les voir à l'entraînement. Ouais.
Bon, bah écoute, le message est passé. Les joueurs ont eu le droit de voir leur famille aujourd'hui.
On a vu ça, ça on l'a lu. Par contre, ça on l'a lu.
J'hallucine toujours avec ce truc-là, parce que tu as l'impression, on en parlait un peu tout à l'heure pendant le match, tu as l'impression que c'est comme en prison. C'est autorisation, parloir aujourd'hui, 14h, 16h, vous avez le droit. Mais attention, 16h01, c'est fini.
Et puis,
je ne sais pas, les mecs, c'est les grands garçons. Je veux dire, aujourd'hui, tu as l'autorisation.
T'as le gardien qui frappe à la fenêtre à 2 minutes de la fin.
Peut-être. Bon, en tout cas, voilà, ça se passe comme ça. C'est on va dire dans le paradigme du foot, hein, c'est comme ça. Des autorisations de voir les familles.
Un grand bonheur.
Voilà.
Parfois, ça pouvait même ressembler à une sorte de cadeau.
Oui, c'est ça.
Ah, vous avez été bon. Allez hop.
Tu sais, c'est comme si les familles. C'est comme si les nanas des joueurs tournaient autour du truc. Ouais. Et quand est-ce qu'on va avoir l'intention de rentrer?
Bon, t'aurais fait une défaite, un nul, match capital. Oh, ils étaient enfermés, ils bougeaient plus. Là.
Ah, là, c'était,
au pain sec, à l'eau.
Rideau.
Bon, c'est assez incroyable. Bon, enfin, c'est comme ça.
C'est bien pour l'ambiance.
Coach Courbis nous signale quand même, il m'envoie un message, qu'en 2014, le troisième match, Justil avait été mal géré contre l'Équateur. Rappelez-vous, bon. Ouais, sûr que si t'as un blessé ou quoi.
Ouais, c'est pas le moment de.
Ou si tu perds contre la Tunisie, ça peut la foutre mal quand même. Je sais pas en termes d'image. Bon, je sais pas. À voir.
Tous les Tunisiens qu'on a rencontrés dans le.
Je vois pas en quoi. Je me souviens de ce match mal géré. Est-ce que ça avait eu une incidence sur le huitième contre le Nigeria et sur le quart où tu perds contre l'Allemagne.
Plus forte.
Je vois pas vraiment en quoi ce troisième match contre l'Équateur. Je me souviens de certaines critiques et de discussions, mais avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que t'aurais fait de différent qui aurait pu changer le destin de cette équipe? T'as eu ensuite un huitième de finale plutôt facile et tu tombes sur le futur vainqueur en quart. Bon, voilà.
Alors, autre petit débat aujourd'hui concernant l'équipe de France, c'est les fameuses médailles de champion du monde. Si jamais la France est championne du monde, qu'en est-il de Benzema? Sera-t-il considéré comme un champion du monde ou pas? C'est un débat aujourd'hui. Daniel fait les gros yeux.
Attends,
je raconte l'histoire avant que tu t'énerves. Donc,
non, mais c'est un...
le problème, c'est qu'en fait, il y a 26 positions de champion du monde. Parce qu'il y a une liste de 26. Benzema n'a pas participé une minute, il est parti avant le début. Donc la Fédé, si la France est champion du monde, pourra décider ou pas de dire à Benzema, tu es champion du monde. Enfin, c'est ça l'histoire.
Je ne sais pas si vous l'avez vu au match contre l'Australie, mais la speakerine, en donnant les noms, a donné Karim Benzema. Et après, elle s'est arrêtée. Et au match suivant, elle l'a plus dit. Comme elle a pu dire Lucas Hernandez.
D'accord.
Mais sur le premier match...
Mais Hernandez a joué quelques minutes.
Oui, bien sûr. Là, Benzema n'avait pas joué. Mais il était quand même sur la liste.
Bon.
À l'annonce des joueurs, il est sur la liste.
Certains considèrent qu'il faut avoir joué la finale pour se considérer comme...
Mais il était dans le groupe.
Bah, Adil Rami, oui. Après, Adil Rami, il était là tout le temps. Donc, on peut considérer qu'il a eu une influence, je sais pas, dans les vestiaires, sur le banc.
Là, il a.
J'ai vraiment du mal avec ceux qui considèrent qu'il faut avoir joué la finale pour être. Alors, ne pas avoir fait une minute, c'est une chose. Et encore, hein, pour moi, t'as été dans le groupe, t'as fait toute la compétition avec l'équipe, comme Adil Rami. Pour moi, t'es champion du monde, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais alors, ceux qui ont fait tous les matchs.
Ou comme Lionel.
Comment?
Ou comme Lionel.
Mais Lionel te dit. Lionel te dit qu'il se considère pas vraiment champion du monde.
Non, mais ça, c'est
il
son
a un
avis.
Discours là-dessus.
C'est son ressenti à lui. Et il est libre d'avoir son ressenti.
Bien sûr, mais
ce
moi,
débat
en tout cas,
sur Benzema qui n'est pas là, qui est à la maison, et tu vas lui dire t'es champion du monde, mais arrêtez. Je ne comprends pas ces débats inutiles. Là. Vraiment, on a un.
Mais toi, tu veux qu'on dise qu'il est champion du monde ou pas?
Mais je m'en fous. Ça ne m'intéresse même pas. On est à la Coupe du Monde et il faut inventer des débats. Non, je préfère qu'on parle d'autre chose. Ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas de parler.
Gaël, mot de la fin là-dessus.
Tu t'en fous pas, toi, de savoir si on va dire il est champion du monde ou pas, mais qu'est-ce qu'on a à carrer, t'as Kevin, ça t'intéresse, toi?
Dans les 12 heures, il est parti. Il est pas dans le groupe. Il est pas dans le groupe.
Bien sûr qu'il est pas dans le groupe. Voilà, il est pas dans le groupe.
Adil, Lionel, ils étaient dans le groupe.
Bien sûr, ils ont fait toute l'aventure. Ils ont fait toute l'aventure et tu peux considérer qu'ils ont joué un rôle. Mais lui, il est parti, il est à la maison.
Il est à la maison.
Ouais, bah toi aussi, Gaël, t'es champion du monde. T'as eu un rôle plus important parce que t'es allé encourager l'équipe en tribune.
Ah, écoute, j'ai perdu ma voix, j'ai perdu.
Et la jambe en plus, t'as perdu un genou. Toi, tu mérites la médaille, toi.
Bon, voilà pour l'équipe de France, rien de plus aujourd'hui. Donc, on verra demain si d'autres débats sont nécessaires. Dans un instant, on peut donc passer au reste de l'actu et aux autres matchs du jour. On va parler longuement de la Belgique et du Maroc. Dans quelques instants, on va aller sur place, évidemment. C'était l'autre gros match du jour en dehors d'Espagne, Allemagne. Et l'after revient dans quelques instants. À tout de suite.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Kevin Diazella, Daniel Riolo est là. On a Gaël avec nous, supporter des Bleus qui reste là jusqu'à minuit dans l'after. On va parler de Belgique-Maroc maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Et on a avec nous Guillaume Gauthier qui est journaliste belge pour le magazine Sport Foot en Belgique. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous,
Guillaume. J'entends pas bien du tout, moi.
On va régler le son. Mais Guillaume était déjà avec nous il y a quelques semaines avant la Coupe du Monde, présent. Et puis on a Hamza Ramani qui suit toutes les sélections africaines pour l'after. Salut Hamza.
Salut Gilbert.
Salut. Non, j'entends rien du tout.
Hamza, on va régler aussi le son. T'inquiète pas, ce sera entre notre studio parisien, notre studio qatari. Bon, démarrons avec toi, Guillaume, parce que après ce match, il y a même eu des explications de texte entre joueurs suite aux déclarations de De Bruyne. Là, c'est Vertonghen qui s'est énervé. On a l'impression que
ça sent la sélection qui coule.
Ouais, c'est exactement là. C'est très inquiétant pour la Belgique, ce qui se passe sur le terrain et en dehors, Guillaume.
Oui, on est dans une situation où tout le monde se reproche d'être vieux, en gros. Kevin De Bruyne et Eden Hazard avaient dit que les défenseurs étaient un peu trop vieux, qu'ils savaient que c'était pas les plus rapides. Là, Yann Vertonghen qui dit après le match, vu la difficulté qu'on a à se créer des occasions, visiblement nos attaquants sont aussi trop vieux. Donc voilà, c'est la très bonne ambiance. On a eu une Belgique qui paradoxalement était mieux organisée, mieux en place défensivement en tout cas que contre le Canada. Et qui pourtant a pris deux buts là où elle avait réussi à garder le zéro contre les Canadiens. Donc et surtout, ce qui est inquiétant par rapport à ce que la Belgique avait montré depuis des années, c'est que en deux matchs, elle s'est créée très très peu d'occasions.
C'est vrai. Bon, alors évidemment, il manque Lukaku. Ça, c'est forcément un coup dur. Mais du coup, est-ce qu'en Belgique, on se dit ça y est, maintenant c'est foutu, faut qu'on passe à autre chose, à une nouvelle génération. On fait une croix déjà sur la suite ou il y a encore la flamme qui est là?
Bah, disons que la victoire de la Croatie, assez spectaculaire, a sans doute pas rassuré en vue du troisième match. Donc, il y avait déjà pas mal de doutes sur cette génération vieillissante, sur Roberto Martinez avant le tournoi. Ça s'est pas amélioré avec le résultat d'aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une situation que beaucoup de pays ont connue, finalement l'Espagne, l'Allemagne ces dernières années, où on a eu une génération qui a réussi des accomplissements extraordinaires à l'échelle du pays. C'est-à-dire que l'Allemagne et l'Espagne avaient été champions du monde. La Belgique, elle a été médaille de bronze, ce qui était déjà exceptionnel pour un pays comme la Belgique. Et donc, c'est difficile de tuer cette génération ailleurs que sur le terrain. Et c'est ce qui est probablement en train de se passer, même si on n'est jamais à l'abri d'un sursaut d'orgueil dans le dernier match de poule. Mais ça offrirait de toute façon la perspective d'un huitième de finale, sans doute contre l'Espagne ou contre l'Allemagne ou le Japon, qui serait sans doute pas beaucoup plus réjouissant sur les chances des Belges. Donc ouais, il y a une nouvelle génération qui arrive, elle est sans doute peut-être pas encore complètement prête, et donc on est dans un genre d'entre-deux qui dont on voit les limites actuellement. On voit que l'équipe se cherche complètement sur le terrain. On a un Kevin De Bruyne qui est vraiment,
je crois même qu'il y en a
très loin de son meilleur niveau,
qui n'ont plus envie d'être là et qui n'ont presque plus envie de jouer les uns avec les autres. C'est ça qui est très étonnant. Moi, par exemple, voir qu'un Eden Hazard revient en sélection, met le brassard de capitaine et est sur le terrain, c'est quasiment incompréhensible. Parce que il ne fait plus rien. C'est plus un joueur de foot depuis très longtemps. Et qu'on bâtisse encore autour de lui, ça a presque pas de sens. Après, les défenseurs vieillots, là. Bon, d'accord, très bien. Mais c'est toute l'équipe, moi, qui me semble en fin de vie. il se passe rien. On n'a pas tenté de nouveaux joueurs. On n'a pas tenté un mix jeune ancien. Le jeu, on le comprend plus. Alors que c'était la Belgique avait quand même une forme de jeu qui était c'était assez intéressant à regarder quand même. Là, je sais pas. Moi, j'ai pris le match que j'ai vu cet après-midi comme une punition méritée. Comme le gars qui travaille mal à l'école, et forcément, au bout d'un moment, la punition, tu vas la prendre. Et ils l'ont pris. Les Marocains sont arrivés, et hop là, au piquet.
Bon, déjà, le match contre le. Le Canada, il méritait pas de toute manière non plus.
Ouais.
Ils ont fait un petit hold-up avec un Michi qui marque un but après avoir pas fait grand-chose pendant le match. Là, perdre contre le Maroc, c'est tout à fait logique. Et c'est vieillissant et derrière ça avance pas beaucoup non plus.
Alors j'ai quand même, faut quand même Guillaume qu'on parle un peu de De Bruyne parce que moi je le savais pas aussi cash dans ses déclarations. D'habitude je pense un peu plus policé. Si.
Regarde, c'est comme quand il reçoit le prix du fair play. Ah. Qu'est-ce que je fous là? C'est pas moi qui fallait le donner.
Non, c'est pas ça. C'est le truc d'homme du match. Il dit je l'ai eu parce que c'est sur mon nom. En fait, je mérite.
C'est ce que j'ai dit. Il y avait ça plus après l'embrouille aujourd'hui avec certains autres
joueurs. Donc attends, je reprends quand même sa déclaration après le match du Canada. Il dit. Nous sommes trop vieux. Je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle vieillit. Nous avons perdu des joueurs clés. Nous avons de bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018. Bon.
C'est une sélection qui est cramée, qui doit changer de sélectionneur.
Quand tu dis ça, c'est le message que t'envoies.
C'est fini. Il dit ça, c'est fini.
C'est fou. Et donc aujourd'hui, Vertonghen, un peu énervé quand même, je pense, dit, en gros, dire ça devant la caméra, c'était peut-être pas la meilleure solution. Et puis en gros, il dit, on a beaucoup de qualités. Là, il est ironique. Peut-être aussi que nous attaquons mal et que les gars, là, entre guillemets, les attaquants, donc De Bruyne, sont trop vieux aussi. En fait,
c'est
ça, Guillaume, hein, toi qui.
C'est un règlement de compte.
Oui, c'est ça. On est dans une équipe qui, clairement, commence à avoir beaucoup de mal à vivre ensemble. C'est en tout cas l'impression que ça donne de l'extérieur. Ça se ressent sur le terrain aussi. Où, pendant le premier match contre le Canada, après le but de Batshuayi, il y a une embrouille entre De Bruyne et Toby Alderweireld. Parce que De Bruyne trouve qu'on joue trop avec des longs ballons et Alderweireld vient lui dire j'ai mis un long ballon à Batshuayi et on a marqué comme ça. De Bruyne qui a raté 2-3 passes ou qui a pas vu des passes évidentes contre le Canada, on dit toujours c'est le mec qui voit les passes que personne voit. Il y a une passe en début de match qui devait mettre à Tielemans qui lui met pas, alors que tout le monde l'avait vu. C'est vraiment le gros paradoxe de.
Non mais De Bruyne il fait la gueule, il a pas envie d'être là. De Bruyne il a lâché De Bruyne.
La sélection belge, ça a toujours été une sélection qui était basée sur la fraîcheur quand même, avec beaucoup de mouvements, avec un jeu assez moderne, avec des transitions rapides, etc. Et aujourd'hui pour le coup, des fois on critique un petit peu Didier Deschamps sur le fait qu'ils prennent pas forcément les meilleurs joueurs, mais qu'ils essayent de former un groupe. Et je pense que c'est ce que Martinez n'a pas réussi à faire sur les dernières compétitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bâtir, comme tu disais, Daniel, non plus autour de Hazard, qui doit plus jamais avoir le brassard de capitaine, mais tu dois bâtir autour d'un seul homme, qui est Kevin De Bruyne. Et presque, tu dois lui dire, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là, on a un peu moins de talent, mais on va arrêter de prendre Hazard et les vieilles gloires. Qui est-ce que tu veux autour de toi? Voilà. Tu fais presque l'équipe pas avec lui, mais vous voyez où je veux en venir, et parce que c'est lui aujourd'hui le joueur.
Et Hazard, il a plus le niveau pour être dans la sélection.
De Bruyne, il peut aussi se lever demain et dire j'arrête la sélection. Hein.
Non, mais
tu vois le caractère du gars là.
De Bruyne, il faut juste qu'on, comme je viens de dire, qu'on bâtisse autour de lui.
Y a pas matière à avoir une ossature ou prendre quelques mecs de Bruges là, une équipe quand on la voit jouer.
Il y a Van Aken. Bon voilà,
il y a quand même dans cette équipe là, c'est quand même incroyable que ces mecs là n'existent pas.
Guillaume Gauthier.
Ces mecs là n'existent pas en sélection. C'est les mêmes depuis 20 ans qu'on voit.
Mais il y a très peu de joueurs de l'ossature de Bruges, on va dire, qui sont des joueurs belges. Il y a Hans Van Aken qui est là en sélection.
On est d'accord, il y a des Belges quand même dans cette équipe.
Il y avait Charles de Ketelaere, mais qui est maintenant au Milan AC, qui est monté ici en fin de match. Mais c'est des gars qui sont. Le problème, c'est que cette relève.
Il doit jouer de Ketelaere, même si à Milan, ça c'est pas le transfert a pas été formidable. Ces mecs-là doivent intégrer la sélection, ils doivent être sur le terrain quand même au bout d'un moment.
Bah ici, il est monté au jeu, il a touché un ballon et demi. Alors moi, je suis d'accord qu'on est très loin du Eden Hazard de 2018. Et le vrai problème, c'est que sur les deux premiers matchs, le meilleur joueur offensif de la Belgique, c'est Eden Hazard. Et ça résume toute l'étendue du problème.
Effectivement, si vous, en plus en Belgique, vous continuez à penser qu'il faut qu'il joue, là, on peut pas s'en sortir. On va attendre que ça coule complètement. Et puis, voilà. Non, mais si en Belgique, ce qui s'est dit, c'est que c'était le meilleur, bon, là, c'est...
Mais c'est aussi le meilleur faire, parce qu'il prend de la place. Et en étant le meilleur, il fait de l'ombre, notamment à Kevin De Bruyne. Et ça c'est forcé de le constater, même si on a tous aimé Eden Hazard. Maintenant, c'est pareil pour Alderweireld et notre ami Vertonghen.
Il doit être à la maison, ces gens-là.
Faut mettre le théâtre de Rennes. Mais voilà, faut laisser de la place aux jeunes. Il y a pas le choix.
Ils tiennent plus debout, les gars. C'est pas possible. Tu peux pas continuer avec cette équipe-là.
Bon, et puis le sélectionneur est peut-être aussi en bout de course. Hein. Martinez, la Belgique a perdu la joie de jouer. Voilà ce qu'a dit Martinez.
Et là, il faut tout changer en Belgique. Malgré tout,
il y a encore une chance de qualif, faut le rappeler, parce qu'ils n'ont qu'un point de retard sur la Croatie. Et donc, c'est le dernier match. Croatie-Belgique, ce sera le.
Mais il faut qu'ils le gagnent, le match, quoi. Un nul, ça leur fait 4 points.
Non, nul, ça suffit pas.
C'est ça.
Il faut que le Maroc soit très largement battu par le Canada.
Les Belges sont 80% de l'autre côté de la porte.
En Belgique, comment ça réagit ce soir là, Guillaume? Il y a beaucoup de débats ou on est un peu résigné? Qu'est-ce qu'on dit?
Oui, bah je pense que tout le monde appelle un peu à ce que Daniel disait, c'est-à-dire un gros reset, changement de sélectionneur, intégration de plus massive de la nouvelle génération.
Il y a Leandro Trossard aussi qui est pas mal.
Ouais, tout à fait. Il a fait une montée au jeu assez tardive et pas terrible. En fin de match, mais il fait une super saison avec Brighton. Il y avait beaucoup de voix au pays qui s'élevaient avant la Coupe du Monde pour que lui soit titulaire et pas Eden Hazard. Je sais pas s'il aurait fait mieux, parce que comme je le disais, Hazard, malgré toutes les critiques, est le meilleur joueur offensif belge d'une pauvre Belgique.
Ouais, mais ça, c'est un problème.
Il y a encore un autre point qu'on n'a pas à soulever là, c'est que Courtois, il était très mauvais aujourd'hui.
Oui, mais bon, Courtois.
Les erreurs qui fait jamais.
Courtois, c'est encore un grand gardien. Il le montre chaque semaine. Je veux pas tomber sur Courtois.
Tiens, on va l'écouter.
Il a pas été bon, ok, très bien. Mais c'est lui, tu le bouges pas.
Écoutez-le.
Même s'ils ont mis le but, je crois qu'on doit rester calme. On n'a pas fait ça. Je crois qu'on jouait plus notre jeu. C'est dur, donc c'est une défaite dure pour nous. Mais ok, on a la chance qu'on a gagné le premier match, donc tout reste possible. Espérons le match maintenant de Croatie contre Canada et après on verra. Mais je crois que peut-être le match nul assez. Je crois que tu dois essayer de gagner. Si alors le Maroc ne gagne pas, ben, tu es premier. Mais je crois que notre premier truc ça va être de gagner le match.
Voilà. Il y a toujours un petit truc, là c'est les mecs qui ont mis le bus, il y a toujours un truc, tu sais, que les autres ont fait. Guillaume, merci en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. C'est sympa.
Avec plaisir.
Et puis écoute, on souhaite à la Belgique d'y arriver, mais c'est vrai qu'on n'est pas très optimiste ce soir.
Et gagne le match, ils font 6 points.
Ça s'annonce assez compliqué.
Ils gagnent le match, ils font 6 points.
Ils peuvent être premiers du groupe encore. S'ils gagnent le match et que le Maroc ne bat pas le Canada, la Belgique sera première du groupe.
C'est un groupe bizarre parce que le premier match Croatie-Maroc était très décevant des deux côtés. C'est-à-dire Modric est transparent, Ziyech transparent. Et là, aujourd'hui, Ziyech s'est réveillé. On va en reparler dans quelques instants.
Je veux savoir, ce qu'a pensé Hamza du grand Hakem.
On va en parler dans quelques secondes. Merci Guillaume, bonne soirée, à bientôt dans l'after.
Bonne soirée.
Guillaume Gauthier du journal belge Sportfoot, le magazine Sportfoot en Belgique. Hamza.
Hazard, reste juste un dernier mot sur Eden Hazard. Où il est vraiment titulaire, c'est à Disney. Grand consommateur, grand client de Disneyland Paris.
Ah bon?
Ah oui, Hazard, oui, bien sûr, faut le savoir.
Bon, moi je lui conseille Europa Park, à côté de Strasbourg, c'est beaucoup mieux.
Tu peux lui conseiller ce que tu veux, moi je te donne juste cette info, tu en fais ce que tu veux.
Ah, mais Europa Park, Disney.
Disney, c'est
le karting, Europa Park, c'est la Formule 1.
Je lui conseillerais le Efteling à côté de Eindhoven.
Tu me dis ça à moi, je m'en fous, moi je te dis qu'il va à Disney, qu'il y est.
Ah bah qui change?
Comme du PSG. C'est très joueur de foot, Disney.
C'est Walibi.
Ils adorent kiffer aller à Disney, les joueurs de foot.
Bah écoute,
plusieurs
c'est
fois,
un délire. Hamza, bon, déjà, deuxième victoire pour les pays africains. Le bilan commence à s'améliorer un petit peu parce que c'était très mal parti.
C'est la meilleure équipe de toute façon.
Ça fait du bien parce qu'on se retrouve dans une situation où enfin tu as un match qui est plutôt bien préparé et qui est concrétisé par une victoire, parce qu'encore aujourd'hui le Maroc a joué sur ses forces. Alors Thibaut Courtois dit le Maroc a placé son bus. Je suis pas forcément d'accord. Le Maroc a très très bien défendu, mais je pense qu'à la mi-temps ils ont aussi pris conscience. Alors je sais pas si c'est une prise de conscience collective ou de Regragui, mais il y a une prise de conscience que non mais attends, mais aujourd'hui il y a bien mieux à faire que de défendre uniquement. Il y a la possibilité d'aller chercher une victoire face à cette faible, très faible équipe de Belgique. Et on se retrouve d'ailleurs dans une situation, Gilbert, où lors des deux premiers matchs face à la Croatie et face à la Belgique, le Maroc n'a concédé que 5 tirs cadrés. Le Maroc, depuis l'arrivée de Walid Regragui, n'a pas pris un seul but. 5 clean sheets en 5 matchs. Donc c'est une équipe qui défend très bien et qui a la qualité individuelle. Et là, je sais ce que où m'attend Kevin concernant Hakim Ziyech. Hakim Ziyech,
il est au corner, il fait gaffe. Hein.
Il a eu.
Tu sais que Hamza et moi, on s'est fait allumer sur les réseaux sociaux après le premier match parce qu'on a dit, et moi je maintiens, que Hakim Ziyech avait été mauvais contre la Croatie. Il a été transparent.
Mais pas seulement face à la Croatie, Gilbert. Hakim Ziyech, il faut savoir qu'avant ce match-là, Hakim Ziyech, sur tous ses matchs de Coupe d'Afrique et de Coupe du Monde, n'avait pas marqué un seul but, n'avait pas réalisé la moindre passe décisive. Et ses statistiques face à la Croatie, oui, il a été mauvais. Maintenant, on peut aussi dire qu'aujourd'hui, il a fait un bon match. Enfin, ça fait
tout
plaisir.
À fait.
Parce que c'est un joueur de talent.
Homme du match.
Oui, homme du match. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait vraiment un gros match. On a parlé tout à l'heure du socle défensif. Encore une fois, c'est peut-être pas le plus élégant des joueurs, mais un joueur comme Amrabat, il est indispensable, je trouve, à cette équipe. L'entrée de Sabiri, qui avec l'absence finalement d'Amin Harit, aura peut-être à terme une carte à jouer si le Maroc va un peu plus loin dans la compétition, parce que c'est un très bon joueur que l'on découvre cette saison. C'est un joueur qui la saison dernière était encore en série B, je crois, du côté d'Ascoli. Il est arrivé en janvier dernier à la Samp. Il réalise un bon début de saison du côté de la Samp et il s'est installé depuis septembre dans la rotation. Il en est déjà à 2 buts. C'est vraiment un joueur très très intéressant. Mais le Maroc a fait son match. Et enfin, encore une fois, le Maroc et plus globalement les pays africains ont réussi à concrétiser des prestations souvent intéressantes. Pas seulement sur 2022, mais aussi sur 2014, sur 2018, mais qui n'ont pas souvent été récompensées.
Alors, tout à l'heure, Mustapha Hadji était c'était sur RMC, dans l'intégrale Coupe du Monde. Et lui, il a son explication à lui sur la réussite actuelle du Maroc. Écoutez.
Après Vaïd, les joueurs se sont libérés. Tu sais, quand t'es un joueur de football, quand tu vas à l'entraînement, et t'as pas envie d'aller à l'entraînement parce que Vaïd, c'est très dur. Je lui donne un moment de respect parce que j'ai beaucoup appris avec
lui. Bien sûr.
Mais sur le plan humain, c'est compliqué, c'est très dur. Lui, il a encore gardé le football des années 80, 90.
Voilà. Donc c'est il dit en gros, le départ de Vaïd Halilhodžić a tout changé.
C'est pas la première fois qu'on entend ça au sujet de Vaïd. Hein.
Après, il y avait des résultats avec Vaïd Halilhodžić, il les a qualifiés.
Oui, mais ça le suit depuis des années. Le problème, c'est que les mecs, ils peuvent faire des résultats. Ça veut pas dire qu'ils s'entendent avec. C'est pas toujours l'entraîneur qui fait que t'as des résultats. Les mecs ont le droit de bouger sur le terrain aussi, même pour eux. Ce qu'il faut, c'est une bonne entente pour encore aller plus haut. Il faut que les acteurs avancent ensemble et pas les uns contre les autres.
Bon alors, Ziyech, Kevin, vas-y, avant qu'on accueille Redouane au 32-16.
Non, mais bon, après, moi vous savez bien que j'aime beaucoup et que je suis depuis très très longtemps Hakim Ziyech. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a un sacré caractère, c'est un joueur qui a même un sale caractère parfois. Mais voilà, quand tu le vois tirer des coups de pied arrêtés comme ça, quand tu le vois se donner à fond avec et sans le ballon, après c'est normal, hein, comme disait Hamza, et je suis d'accord avec lui, en championnat, il a peu joué, donc il a peu de rythme, donc il lui fallait aussi peut-être un match pour se mettre dedans. Bon, il avait quand même mis un but du milieu de terrain lors du dernier match de préparation quelques jours avant la Coupe du Monde. Donc voilà, moi je suis content parce que, alors comme vous le savez, il y a beaucoup de joueurs qui sont formés aux Pays-Bas dans cette équipe, et je sais qu'il y a aussi beaucoup de Marocains en Belgique, donc c'était un peu un derby Maroc-Belgique. Mais quand je vois cette défense, hein, surtout avec Romain Saïs qui est excellent en Angleterre depuis plusieurs saisons, Naef Aguerd qui est également excellent, Hakimi et Mazraoui, c'est quand même une défense qui est vraiment, qui a fière allure. Sofiane Amrabat.
Hakimi qui est sorti avant la fin, il y a peut-être un souci. Hein.
Ouais.
Je ne sais pas si on a plus d'infos, là, je n'ai pas vu passer.
Il a eu un petit pépin physique ces derniers jours. Il était en fait un petit peu incertain. Regragui a pris le risque, mais il n'a pas voulu prendre le risque justement de le faire jouer 90 minutes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'image du gardien Bounou, le gardien titulaire de Séville, qui devait débuter la rencontre, qui est rentré sur le terrain pour l'hymne national et qui finalement n'a pas débuté le match. Il a eu un problème. Alors, Walid Regragui parle d'un problème physique qu'il aurait contracté lors du match face à la Croatie, Et du coup, il s'est pas senti, Bounou, de débuter ce match. Je veux bien le croire, mais il y a un supporter qui a filmé notamment le
on a aussi parlé de vertige.
Exactement. Et on a l'impression
que c'est un peu bizarre quand même d'être là pour les hymnes et de pas démarrer le match. C'est-à-dire, tu vois, là,
exactement, c'est... exactement. Et sur la vidéo bizarre. Du supporter, la vidéo en question, on voit l'hymne national marocain avec les joueurs. On voit un Bounou qui se sent pas très très bien. Donc peut-être vertige. Bon, il y a la version officielle de Regragui. Moi, je veux bien le croire. Il y a pas de problème. Mais je pense que c'est rien de grave finalement pour Bounou qui devrait rapidement retrouver sa place.
Redouane est là au 32-16 avec nous. Salut Redouane.
Salut, salut. Déjà, ça me fait trop plaisir de passer sur RMC en direct.
Eh ben, écoute, t'es le bienvenu.
Merci, c'est gentil. Et je voulais intervenir sur le Maroc. Et je partage ton avis déjà, Daniel, sur Hakim Ziyech.
Ah, moi, j'en ai pas parlé. Hein.
C'était moi.
Ouais, c'était Kevin.
Non, Daniel, t'as dit comme quoi il était transparent.
Non, ça c'est moi qui l'avais dit, qui n'avait pas été bon contre la Croatie.
J'en ai pas parlé, Redouane, je suis désolé, vois avec les autres.
Gilbert, pardon. C'est la première fois. Et ouais, je trouve qu'on a trouvé un Ziyech, ouais, même défensivement, en première mi-temps, il était au top. Et après, en deuxième mi-temps, il nous a fait montrer ce qu'il savait faire, tout simplement. Et comme toute l'équipe, c'était grandiose. On leur a marché dessus en deuxième mi-temps, on leur a laissé aucune chance. Parce que quand même, faut le faire, battre la Belgique, demi-finaliste du dernier mondial, même si l'équipe est vieillissante, faut quand même le faire. Et je trouve que le Maroc est monté en puissance. On a subi un peu contre les Croates, on n'a pas fait un gros match. Une première mi-temps, on a bien laissé passer l'orage, et en deuxième mi-temps, voilà quoi. C'était parfait.
Moi, je pense que derrière l'Algérie, je sais pas ce qu'en pense Hamza, ce que vous en pensez, messieurs, mais c'est quand même la meilleure équipe africaine pour moi, le Maroc. Quand Sadio Mané n'est pas avec le Sénégal.
Le Sénégal au-dessus, non?
Je parle à la Coupe du Monde. Hein.
Sur les résultats en Coupe du Monde.
Non, à la Coupe du Monde cette année.
Hamza et Redouane donnera son avis ensuite. Vas-y, Hamza.
Alors, si tu parles aujourd'hui à l'instant T, le 27 novembre, l'Algérie, je suis pas sûr qu'elle fasse partie du top 8 ou du top 10 africain. Il y a tellement de choses à reconstruire, on va pas en parler parce qu'on en aurait pour 4 heures. Mais je pense qu'en termes, en fait, il y a différentes choses à dissocier. En termes d'effectifs et de qualité individuelle, aujourd'hui, il y a le Sénégal, il y a le Maroc, il y a le Ghana avec toutes ces recrues binationales que moi je qualifierais d'opportunistes. Il y a la Côte d'Ivoire qui aussi n'est pas qualifiée mais qui a une belle génération. Maintenant, collectivement, effectivement, il y a le Sénégal qui, sans Sadio Mané, a perdu quand même un joueur. Je sais que Daniel en parle régulièrement et je le rejoins totalement sur cet aspect. Et puis après, collectivement, le Maroc aussi a quelques certitudes parce que Regragui n'a pas cherché à tout chamboulé après le départ de Vaïd. On le rappelle, il n'a eu qu'un seul rassemblement en septembre pour travailler avec les joueurs. Il s'est appuyé sur le travail de Vaïd, le socle défensif qui avait été construit notamment par Vaïd, ce 4-3-3 que l'on a vu notamment lors de la dernière CAN, pas seulement parce qu'on l'avait vu aussi en 4-4-2. Et derrière, il a aussi et surtout redonné confiance à certains joueurs, les Mazraoui, les Ziyech et d'autres. Mais je pense que collectivement, aujourd'hui, le Maroc, c'est l'un des projets les plus cohérents du continent.
Redouane, tu voulais rajouter un truc?
Franchement, je suis un peu perdu, désolé. Mais non, ouais, c'était...
Tu te vois déjà en huitième, Redouane? Tu te vois en huitième contre l'Allemagne?
Oh oui, on a fait le plus gros, je pense. Je ne nous vois pas perdre largement contre le Canada, déjà.
Ouais.
Ok, déjà éliminé, en plus.
On a fait le plus gros, en fait, c'est aujourd'hui. On a réussi, et même contre la Croatie, notre qualification, c'est là où elle joue les deux premiers matchs. Hein.
Moi, je pense que les Marocains, ils préféreraient jouer l'Espagne que l'Allemagne.
Ouais. Direct, l'Espagne.
Ah ben c'est un autre derby, l'Espagne.
Et en plus, oui. On leur a fait mal. El Nesyri, il avait fait mal à Ramos. Hein.
Bon, écoute, pourquoi pas, ça va dépendre des derniers résultats. Bon, ouais, Ramos n'est pas là, donc il pourra pas lui refaire mal, en l'occurrence. Mmh. Redouane, merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Juste avant, j'ai reçu.
Je voulais passer un bonjour à mon pote.
Oui.
Je voulais passer un bonjour à Mamad. Il nous écoute. Très bien. C'est un fidèle de l'After.
Salut Mamad, on l'embrasse.
Le bonjour est passé. Oui, Hamza.
Juste un mot, Gilbert, par rapport à ce que disait Redouane. Par rapport à ce que disait Redouane, il faut aussi faire attention à un point très important je vais globaliser sur l'ensemble des sélections africaines, pas seulement en 2022, mais encore une fois sur les dernières années. On a souvent des sélections africaines qui performent entre guillemets face aux gros, si ce n'est pas au niveau du résultat, au moins au niveau de l'impression. Le Nigeria qui perd sa qualif à la dernière minute face au Nigeria, le match nul de l'Espagne face au Maroc alors que le Maroc était déjà éliminé, la Tunisie qui perd à la dernière minute face à l'Angleterre. En 2014, il y avait le match nul du Ghana face à l'Allemagne et ils avaient perdu en toute fin de match face aux États-Unis face au Portugal. L'Algérie, pareil, face à la Belgique. Le problème des pays africains, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'est un problème de rigueur, de préparation, mais c'est sur ces matchs supposés plus faciles ou face à des équipes, on le voit encore avec la Tunisie face à l'Australie, ou des équipes supposées plus faibles. En tout cas, la rencontre la plus abordable que l'on pourrait estimer sur le papier pour ces pays africains. Et sur cet aspect-là, il faut faire très attention pour le Maroc, mais pour toutes les sélections africaines.
Oui, alors il y a, je sais pas si tu as lu ça, il y a eu des dossiers récemment publiés qui, en fait, où on explique qu'il faudrait que les pays africains affrontent plus souvent des grosses nations. Et c'est vrai que sur le continent, bon, quand t'as les qualifs et que tu vas jouer, je sais pas, au Burundi ou au Swaziland, bon bah c'est pas ça qui te fait progresser, quoi, en gros, quoi. Tu les fais progresser eux, mais pas toi.
C'est ça. Et en plus, les matchs là-bas sont très très compliqués. C'est-à-dire que t'as pas grand-chose à gagner, mais t'as énormément de choses à perdre. Et effectivement, quand on voit récemment les matchs amicaux intercontinentaux, je pense au Algérie-Colombie, je pense au Côte d'Ivoire-France, je pense au Algérie-Mexique, je pense au Mexique-Chili, tous ces matchs-là. Il y a une effervescence qui est certainement beaucoup plus importante en Afrique parce que c'est l'occasion de se montrer face à ces gros pays. Et on voit souvent des pays africains qui font des bons matchs lors de ces matchs de préparation ou ces matchs amicaux. La disparition de la Coupe de Confédération, ça c'est un autre débat. Pour moi, c'est une tristesse sans nom. Mais effectivement, pour ces pays africains, c'est vrai qu'il y a peu d'opportunités de se jauger face aux pays sud-américains, face aux pays asiatiques et face aux pays européens.
Avant que tu partes, le Cameroun joue contre la Serbie demain et le Ghana contre la Corée du Sud. Comment tu le sens ?
Alors le Ghana, on en a déjà parlé, on m'a beaucoup déçu sur le premier match. J'espère qu'ils vont jouer un peu plus libérés, qu'ils auront un plan de jeu plus offensif, parce que encore une fois, sur le papier, c'est vraiment une très très belle équipe qui là aussi a finalement pas beaucoup de certitudes collectives, mais il y a les moyens quand même d'aller chercher une qualification. Concernant le Cameroun, ils m'ont agréablement surpris, je le disais, face à la Suisse. La Serbie joue aussi très gros, il joue concrètement son avenir en Coupe du Monde. Voilà, il faudra voir honnêtement.
La Serbie, c'est compliqué d'avoir une idée parce que bon, ils ont tombé sur le Brésil et ils se sont fait complètement balader, donc on sait pas vraiment.
Il paraît que c'est une équipe qui joue.
Oui, ouais, on a pas vu.
Qui produit des choses contre les.
Face à la Suède, ils ont mis un 4-1 à la Suède que j'avais plaisir de commenter. Ils avaient été impressionnants.
Il y a des joueurs techniques, ça peut être une belle équipe, mais contre le Brésil, ils ont rien fait. Ils ont fait tout l'inverse. Ils n'ont fait que défendre. Ils ne voulaient que défendre en plus.
Donc là, ce sera l'interrogation autour de cette Serbie. Merci à vous.
Salut Hamza.
C'est demain, bien sûr, ce sera sur RMC. Dans un instant, on va dire au revoir au Canada, si vous le voulez bien, qui finalement a zéro point, mais qui n'a pas été ridicule.
Ouais, c'est.
On va y revenir, Daniel. Bouge pas dans quelques instants. Et puis le reste de l'actu du jour, des nouvelles, notamment de Neymar, à venir dans l'after. À tout de suite.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois. Avec Daniel Rieu, avec Kevin Diaz pour encore un petit quart d'heure. Ensuite, c'est Thibaut Giangrande qui prendra la suite jusqu'à 1h du matin pour la libre antenne de l'after. Gaël également avec nous, supporter de l'équipe de France. T'as regardé le Canada, Gaël ?
Et ouais, je suis allé le voir deux fois au stade.
Ah ouais ?
Donc j'ai vu Belgique-Canada.
Et qu'est-ce que t'en as pensé soir, alors ? Franchement, c'était
plutôt bien.
C'était frais. Mais malheureusement, zéro point.
Ils m'ont fait penser, je suis supporter de Marseille, ils m'ont fait penser un peu à Marseille. Ils commencent au taquet. Ils asphyxient un petit peu, de belles occasions. Ils ont deux, trois bons mecs, notamment un gars de Bruges à droite, là.
Qui est. Buchanan,
c'est lui.
Ouais, Buchanan, bon joueur.
Très, très bon joueur.
Très bien.
Il s'est un peu essoufflé au cours de ce match aujourd'hui.
Aujourd'hui, je l'ai encore vu bon, moi.
Deuxième mi-temps. Première mi-temps, très, très bon.
Il
a été moins bon. Après, c'est surtout le premier centre qu'il fait sur le but. Il fait la diff, des contrôles assez pointus techniquement.
On a avec nous Randall Wilhelm qui était déjà avec nous après le premier match du Canada, qui est coach de foot à Toronto. Salut Randall.
Bonsoir tout le monde.
Salut.
C'est un paradoxe parce que Randall. Le Canada, Randall, quitte la compétition 0 points. Mais
en nous laissant une belle impression.
Bah, c'est ça, voilà. En fait, c'est loin d'être la honte, quoi.
Non, c'est loin d'être la honte. De toute façon, moi, avant la compétition, j'avais dit que s'ils finissaient deuxième, même troisième, ça aurait été super. Après, ils ont pas les deux matchs, malheureusement, comme il l'a dit Gaël, ben ils sont directement allés au pied au plancher. Ils ont mis tout de suite la cinquième. Ça a pas tenu contre la Croatie. On l'a vu après 15-20 minutes où ils se sont vraiment essoufflés. Et puis après, il y a des joueurs qui quand même faisaient leur dernière, entre parenthèses, dernière et première Coupe du Monde, comme Hutchinson qui a le record maintenant du joueur le plus ancien dans une Coupe du Monde. Et ça s'est
en
vu,
plus,
je pense.
Franchement, on l'avait jamais vu sans Starsky, il se démerde pas mal. Hein.
il se démerde super bien, ouais, exactement. Mais alors, c'est vraiment dommage.
D'autre part que sur son tracteur.
Ouais, bien. D'accord,
ok. Il ne connaît pas les tracteurs d'ailleurs.
Non, je connais
il
n'est
pas trop de la campagne.
Je ne connais pas les tracteurs, pardon.
On n'a pas au Qatar.
Excuse-nous, Rodolphe.
Non, mais il n'y a pas de souci. Mais comme il l'a dit John Herrmann directement après le match, il était content, il n'était pas déçu. De toute façon, il s'y attendait. C'est la préparation aussi pour 2026. Et il y a des jeunes joueurs qui vont arriver. Vous avez parlé de Buchanan, j'en parle depuis longtemps, depuis qu'il est en MLS. Il y a beaucoup de joueurs qui vont encore arriver en 2026, donc quelques binationaux. Donc ça aussi, ça va être à suivre. Mais c'est franchement, pour le ce qu'ils ont mis en place et sur le terrain, c'était vraiment beau. Et ça a enfin emmené un peu de, on va dire, au Canada, on va enfin parler du soccer, du football, parce que c'est vrai que avant cela, à part le soccer féminin, c'était surtout le hockey, la NBA, le baseball. Et
là, il y a eu une petite folie, soccer au Canada ou pas trop?
Alors, en fait, j'ai un peu regardé aujourd'hui. Moi, déjà, j'en ai parlé avec mes joueurs hier soir. Donc, avant mon match, on a joué hier soir. Donc, tout le monde était à fond dedans. Par contre, il y a un peu, comme c'est l'hiver ici, c'est un mix. Il y a en même temps la Ligue nationale de hockey, donc la NHL, qui en même temps, il y a un peu de basket. Donc, sur certaines radios, la plus grande d'ici, au début, à 30 minutes du coup d'envoi, ils ont parlé plus de l'équipe locale de hockey. Par contre, quand tu allais près des pubs et tout, ils étaient tous remplis à 10h30 du matin, parce que le match ici était à 11h, et ils étaient remplis, les pubs étaient remplis de partout. J'en ai fait quelques-uns juste pour prendre un peu la température, et il y a un engouement qui s'est créé. Ça va, je pense, continuer d'ici les années qui viennent, jusqu'en 2026, parce que le Canada va accueillir quelques matchs. Mais ouais, ça commence, franchement. Il y a un bel engouement, tu vois de plus en plus de maillots de foot du Canada. Donc ça commence, ouais.
En tout cas, on peut saluer tous les auditeurs, et il y en a énormément, tous les auditeurs d'RMC et de l'Afterfoot au Canada et au Québec.
Ouais, bien sûr.
Il y en a énormément.
C'est vrai. Il fait quelle température à Toronto, là?
Écoute, aujourd'hui, il faisait 7 degrés. Il n'y a plus, mais
7 degrés, mais il fait super chaud.
Ouais, c'était l'été.
Je pensais que c'était moins 20.
En short claquette. Non, en short claquette, c'était bien. Franchement. Ouais. Mais non, à Toronto, ça va. L'hiver est encore doux. On a de la chance cette année. Donc ça aussi, ça aide un peu les gens à aller dans les pubs et autres. Mais après, c'est vrai que c'est l'hiver. On n'est pas en Argentine où c'est l'été pour eux. Donc c'est différent, quoi.
Il faut quand même dire, parce que j'y étais cet été, qu'en été, il fait clairement entre 20 et 30 degrés.
Même plus. Et t'as de l'humidité et tout. Non, c'est un été vraiment. C'est vraiment chaud, quoi.
Voilà. Et l'hiver, il fait moins 20.
C'est ça.
Bah après, quand on parle des moins 20, d'ailleurs, ils avaient fait quelques matchs de qualification. Ils avaient emmené le Mexique à Edmonton, je me rappelle, dans un stade où il faisait moins 15, moins 20. Je me rappelle l'arbitre.
Le bon
tracteur
pour les Mexicains.
Le piège. C'était assez marrant.
Et c'était quoi le résultat? Le Canada a gagné?
Le Canada avait gagné, je crois, 1-0, si je me rappelle bien, contre le Mexique à ce moment-là. Ça les avait bien aidés. Après, les États-Unis avaient fait pareil, un match, je sais plus contre qui, ils les avaient emmenés aussi dans un stade. Je crois que c'était un record, ils faisaient moins 20, moins 25. Et pareil, l'arbitre, il avait une combinaison de plongée, je crois, je me rappelle, c'était assez marrant à voir.
C'est quoi ça? C'est incroyable, ça. Ah, c'est comme à l'époque la Bolivie, hein.
Bon, ben, Rodolphe, on se retrouve un de ces quatre, hein. Tu nous tiens au courant de ce qui se passe au Canada?
Avec grand plaisir. Bah d'ailleurs, si je peux juste faire un peu de pub, ceux qui veulent me suivre sur Twitter, @globrod, GLOBROD, je parle beaucoup de la situation du Canada, comment ça se passe au niveau du développement du football local. Et avec plaisir. À part pour toi, Daniel, on se retrouvera pas sur Twitter, mais pour les
autres, attends, la semaine prochaine, c'est possible.
Ah bah attends, Elon Musk a dit qu'il allait remettre les comptes
supprimés.
Ouais, bah peut-être.
Donc avec grand plaisir.
Ça, c'est facile. Et il est évident que dans le cerveau d'Elon Musk, il y a deux cas particuliers, c'est Donald Trump et Daniel Riolo. C'est
bien,
évident.
Bien sûr. Exactement.
Merci Randolph. Bonne soirée. Randolph.
Et puis dans 4 ans, prochaine Coupe du Monde. Hein.
Dans 4 ans, j'ai pas trop de doutes sur le fait que le Canada soit là. Et fasse des perfs sympas.
Bon, il y a la génération qui arrive. Et le bonjour à mes joueurs, je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, j'ai peut-être passé. Donc là, même s'ils sont anglophones, certains parlent français. Donc voilà, un bonjour aux
joueurs. Dans l'after, on parle anglais. Hello guys.
Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, juste Gilbert, un des coachs assistants de John Herdman, Eric Tenlad, qui est espagnol, qui a travaillé à l'Espagnol Barcelone, il est arrivé au Canada et il a travaillé dans mon club, il était directeur du football avant de joindre la sélection nationale.
Ben Rodolphe, on te souhaite le même parcours.
Voilà.
À bientôt. Ben,
salut Rodolphe. Deux petites infos pour conclure. Bonne soirée, vous dire que Neymar va mieux, vraisemblablement. Alors, on a vu les photos de sa cheville, c'est un peu flippant quand même, un pied gonflé.
Va mieux quand on voit son pied, j'ai du mal à comprendre.
Exactement, bon, c'est ce que dit les médias brésiliens ce soir. Et puis au Portugal, Danilo Pereira ne rejouera pas avant la fin de la phase de poule pour les Portugais. Donc, à suivre.
Ça veut dire quoi, qu'on va revoir Pep?
Ben, possible, c'est...
J'espère surtout revoir le petit jeune du Benfica.
C'est une option.
Ouais, mais ça veut dire Kevin qui va mettre Pep derrière. Avec ça, tu es obligé de jouer bloc bas, quoi.
Le petit jeune du Benfica en défense centrale, celui qui a joué contre le Paris.
D'accord. J'ai bien compris que c'est ce que toi tu voulais, mais est-ce que tu crois que Papi Santos il va faire ça?
Depuis qu'il a mis le jeune gardien de Porto à la place de Rui Patricio, tout est possible.
Ah ouais, c'est vrai.
Info relayée par le Times ce soir qui explique que Messi est déjà en train de dealer son prochain contrat avec l'Inter Miami. Donc pas pour cette saison, le reste de la saison bien sûr, mais pour
la fin de l'année.
C'est
une bonne nouvelle pour le PSG.
Pour l'instant nous on n'a pas ces infos là, donc je vous relaye le Times, si on en sait plus on vous le dit bien sûr. Vous retrouvez tout ça sur rmcsport.fr. Merci Kevin, merci Daniel.
Salut à tous.
Merci Gaël, bonne suite de Coupe du Monde. Thibaut Jean-Grand est là pour la libre antenne de l'After. Thibaut, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde. Effectivement, on est là comme tous les soirs en direct jusqu'à 1h. Dernier soir sans Nico Villas, les gars. Donc, dernier soir, on va profiter pour ne pas parler du Portugal ce soir. Donc, n'hésitez pas, le 32-16, c'est vous qui faites cette émission. On vous attend et Nico sera là de retour demain. Donc, vraiment, c'est ce soir qu'il faut
profiter. Ça marche.
En direct jusqu'à
1h. Allez, bonne libre antenne et à demain soir dans l'After.
Gauche, droite, gauche, gauche.
Tu fais quoi là?
Écoute, je swipe sur l'appli Betson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et... je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betson. Télécharge l'appli Betson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.